Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, joie, ravissement, extase, les mots me manquent pour vous dire à quel point je suis heureux de vous accueillir dans un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre qui sera, on l'espère, riche en potins croustillants puisque cet après-midi, on va évoquer des figures de l'histoire qui ont caché un lourd secret. Toute l'équipe marche sur des œufs, surtout depuis qu'en conférence de rédaction, Stéphane nous a dit qu'il savait.
J'ai découvert qu'il y a deux personnes ici qui ont réussi en couchant.
C'est David et Clémentine. Bonjour Stéphane Merle.
Bonjour Mathieu. Bon, écoutez, personnellement, je ne juge personne.
Non, bien sûr.
Chacun mène sa carrière comme il veut, surtout comme il peut, à la verticale ou à l'horizontale. Surtout vous, hein. Mais aujourd'hui, oui, nous réunissons trois dames qui ont caché un sacré secret. A commencer par un secret que ce médecin a gardé toute sa vie. James Barry a été chirurgien dans l'armée britannique. Mais en réalité, James s'appelait Margaret Bulkley. Elle a choisi de se travestir pour avoir le droit de faire le métier dont elle rêvait. Et personne, mais alors personne, n'en a jamais rien su. Puis je vous raconte le secret qu'a gardé la comédienne Romy Schneider pendant de très, très nombreuses années. Il concerne sa mère et il concerne aussi Adolf Hitler.
Oui.
Ces deux-là se seraient côtoyés de près. C'est ce qu'elle a fini par avouer dans une interview en 1976 à une journaliste allemande qui elle-même a attendu 40 ans avant de le dévoiler. De votre côté, Mathieu, vous nous replongerez au cœur du tournage de Star Wars où la romance torride entre R2-D2 et Clémentine Portier-Kaltenbach n'a pas été la seule à faire jaser.
Effectivement, effectivement, Stéphane, 40 ans après, Carrie Fisher, alias la princesse au macaron dans les cheveux, a révélé qu'entre elle et Harrison Ford, alias Han Solo, coquinerie il y avait eu. Elle n'avait que 19 ans, lui 33, il était marié. Mais comme dirait Clémentine après 8 verres de Morgon...
Oui, mais l'amour excuse beaucoup de choses.
Nous verrons ce qu'en pense le principal intéressé.
Oui. Et avec nous, comme chaque jour, justement, eh bien, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour, messieurs. Et bonjour. Alors, autant vous dire que j'eus préféré largement Harrison Ford à R2-D2. Hein.
Ouais, je comprends.
Il est quand même plus caliente. Alors aujourd'hui, je vais vous faire déjà deviner de qui je vais vous parler. Si je vous parle des trois épouses d'un comédien célèbre, Gaby Basset, Jeanne Mauchin, Christiane Fournier.
Alors déjà, ce n'est pas un acteur très contemporain.
Ça vous dit quelque chose?
C'est Jean Gabin.
Ah, bravo, il est trop fort, Je comptais vous interroger sur ses maîtresses, Marie-Camille Léry, Mireille Balin, qui ne sont pas beaucoup plus connues. Mais,
Il y en a eu des très célèbres.
Alors, il y en a eu des très célèbres. Là, vous auriez trouvé
Marlène
forcément.
Marlène Dietrich.
Exactement, Ginger Rogers, Michel Morgan. Voilà, donc je vais vous parler de Gabin. Mais évidemment, moi, plutôt que l'homme qui aimait les femmes, que j'évoquerai naturellement, je préfère celui qui aimait les chevaux et les chars d'assaut.
C'est-à-dire, la chronique sera sur ses femmes ou sur ses chevaux?
Les deux,
mon général. Avec nous également, Stéphane, l'excellent David Castello-Lopez, chaque jour, l'origine d'une invention. Bonjour,
ouais,
David.
Bonjour. Aujourd'hui, vous voyez à Paris, ces barrières de chantier vertes et grises qui sont partout.
D'ailleurs, ça provoque beaucoup d'énervement sur les réseaux sociaux. Le hashtag saccage Paris.
Oui, ben voilà, saccage Paris. Et comme ça m'arrive quelquefois, je marche dans la rue, je dis, mais c'est qui? Qui c'est qui a fait? Pourquoi ils sont vertes et grises? D'où ça vient? Et voilà, et donc... Ce sera
sympa.
Comme
ça, vous êtes sceptique,
vous êtes un peu genre, mais vous allez voir, ce sera sympa.
Mais on n'en doute pas, ça va être intéressant.
Et puis une recette et son origine avec Olivier Pouls.
Eh bien, un secret.
Comment ça, secret?
Un secret.
Bon, donc, dites-nous un peu plus.
Le secreto.
C'est quoi le secreto?
Une pièce de viande un peu secrète.
Comment ça?
Parce qu'elle est particulièrement goûteuse. Et je vous livrerai...
C'est comme le croupion chez le poulet, c'est ça?
Oui, mais c'est... Là,
la souris d'agneau.
Alors là, pour le coup, c'est une pièce du porc ibérique. Et je vous raconterai l'histoire de ce porc, de ce secret et
il
la manière...
secreto.
Voilà, il secreto, la manière de la cuisiner.
Le secret du porc avec Olivier Poul, ça sera en fin d'émission.
Si ça, c'est pas
c'est très, très excitant. Les gens, là, vraiment, ils savent pas trop si ça va être
tous ceux qui en mangent.
Gastronomique ou érotique. En tout cas, ils ont envie de rester, forcément. Enfin, c'était là aussi un lourd secret qui a, hélas, pour lui voler en éclats au contact du quiz cette saison. Stéphane Merne n'est pas aussi fort en histoire qu'il voulait le faire croire.
Quoi ça?
Quoi ça? Bah ça, il y en a perdu tout bien là, et Stéphane. la séquence qui fait tant de mal à votre réputation.
Oh, non.
Ça sera aux alentours de 5h-10.
Franchement, j'ai pas le sentiment que.
Non, vous avez gagné souvent dernièrement, c'est vrai.
Oui, voilà.
En début de saison, vous aviez été un peu lent à l'allumage.
On comprenait pas vraiment votre quiz. On ne comprend pas plus, mais on s'amuse.
Tout de suite. Hâtons le pas, les amis, nous avons rendez-vous avec le docteur James Barry, un docteur qui toute sa vie aura caché un incroyable secret. C'est son histoire que nous raconte maintenant Stéphane Bern.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Sur le portrait peint au milieu des années 1810, sa frêle allure et son regard déterminé interpellent. Dans son uniforme rouge au col montant, l'officier James Barry a l'air très jeune. Mais on est loin d'imaginer en regardant simplement son image l'incroyable secret que dissimule ce chirurgien de l'armée britannique. James s'appelle en réalité Margaret Bulkley. Oui, ce militaire est une femme. Margaret Bulkley est née à Cork, en Irlande, dans les dernières années du XVIIIe siècle. La date exacte n'est pas connue. Les informations sur les premières années de sa vie et sur sa formation ne sont que supputations. Ses parents, petits commerçants, connaissent visiblement des difficultés financières sérieuses. Le père se retrouve en prison, tandis que la mère et la fille, expulsées de leur domicile, font cap sur Londres pour y retrouver l'oncle de Margaret, James Barry, un peintre reconnu, pionnier du mouvement romantique, qui fréquente les esprits éclairés de son temps. Le détail est important. C'est sans doute au contact de ces intellectuels sensibles aux idées libérales et féministes que la jeune Margaret, alors jeune femme, envisage pour la première fois la possibilité de se travestir pour pouvoir étudier et plus tard gagner sa vie en exerçant un métier. Bien vite, les amis de James Barry, dont le général Francisco de Miranda, révolutionnaire vénézuélien en exil, remarquent l'intelligence et la vivacité d'esprit de la jeune femme. Et lui conseille éventuellement de viser une carrière plus ambitieuse. Peut-être même Miranda pense à faire de Margaret un chirurgien afin de la mettre au service de sa lutte pour l'indépendance. À la mort de son oncle James, Margaret hérite d'une partie de ses biens. En novembre 1809, elle embarque pour Édimbourg où personne ne la connaît. C'est au cours de ce voyage probablement que Margaret quitte ses habits féminins pour devenir James Barry, le nom de son oncle. La raison de ce travestissement est simple. Margaret a suivi les avis de ses protecteurs et ambitionne de devenir médecin. Or, les écoles de médecine sont à cette époque-là interdites aux femmes. Le jeune étudiant James Barry travaille très dur, le nez dans ses livres dès 7h le matin jusqu'à 2h la nuit. Pour dissimuler son véritable genre, James doit s'inventer une autre vie, car sa petite taille, ses traits fins et délicats et sa voix aiguë pourraient faire naître des soupçons. L'étudiant se rajeunit d'une bonne dizaine d'années, se faisant plus facilement passer pour un très jeune homme que pour un adulte. Ses efforts payent. Il obtient son diplôme en 1812, alors que seuls 20% des étudiants y parviennent. Le brillant élève devient chirurgien. De retour à Londres, James Barry s'engage dans l'armée. Les champs de bataille que laissent les guerres napoléoniennes requièrent un grand nombre de chirurgiens. La manière dont James évite l'examen physique à son entrée à l'armée reste un mystère. Ses compétences ne sont en tout cas jamais questionnées. Après quelques années en Angleterre, le brillant chirurgien est nommé au Cap, en Afrique du Sud. Il a environ 25 ans. Là-bas, James Barry ne va pas se contenter de faire discrètement son travail en espérant ne pas être découvert. Non, le docteur a davantage d'ambition et surtout des idées très en pointe sur l'hygiène et sur la façon d'améliorer les conditions de vie des malades dont il a la charge. En avance sur les méthodes médicales de son temps, il comprend par exemple que les saignées affaiblissent encore davantage des organismes déjà mis à rude épreuve. En juillet 1826, appelé en pleine nuit au secours d'un accouchement catastrophique, le chirurgien décide en dernier recours d'effectuer une césarienne. À cette date, les cas d'opération réussis auxquels la mère et l'enfant ont survécu se comptent sur les doigts d'une main. Mais James n'hésite pas. Il explique calmement à sa patiente ce qui doit être fait. Le chirurgien est réputé pour sa douceur envers les malades. Puis, suivant sans doute l'expérience relatée par un médecin suisse quelques années auparavant dans une revue scientifique, le chirurgien se met à l'ouvrage. L'opération est un succès. Mère et fils, baptisés James Barry comme il se doit, sont sains et saufs. Ils doivent peut-être leur salut, en dehors des compétences techniques du chirurgien, à son obsession de l'hygiène. Si les infections bactériennes ne sont pas encore connues, James a l'intuition de l'importance de se laver les mains. Il prône aussi les bienfaits d'une alimentation saine, prévient des dangers de l'alcool ou d'une trop grande promiscuité. Dans les camps militaires où il passe, ces mesures fonctionnent et la mortalité baisse. James Barry est tellement convaincu de sa science qu'il ne respecte pas toujours les hiérarchies quand celles-ci ne lui semblent pas à la hauteur. Ce qui lui vaut quelques remontrances de la part de ses supérieurs et menace un jour de le faire passer devant une cour martiale. Le docteur n'est pas un militaire docile et il n'est pas non plus une personne très facile à vivre. Il n'hésite pas à se battre en duel au pistolet avec un autre officier pour une histoire futile. Son caractère irascible est aussi sans doute un moyen de défense. James Barry ne souhaite pas qu'on l'approche de trop près. Sur le secret de son sexe repose évidemment toute sa carrière et donc toute sa vie. Alors quand James Barry trouve une blanchisseuse s'apprêtant à l'épier à travers les planches en bois de sa salle de bain, il la bat avec une férocité terrible. Un autre jour, c'est une infirmière qui fait irruption dans sa chambre alors que le médecin se déshabille. Elle est forcée de quitter le pays. Les emportements de James Barry sont fréquents. Mais le médecin peut compter sur des soutiens très haut placés, comme le gouverneur du Cap, Charles Somerset, avec qui on lui prête d'ailleurs une histoire sentimentale. Connaissait-il son secret? Si c'est le cas, il n'en a jamais rien dit. Par ses compétences et les résultats qu'il obtient partout où il passe, James Barry monte en grade et parcourt le monde. Après le Cap, il est à l'île Maurice, aux Antilles, en Grèce, en Crimée. Envoyé au Canada en 1857, le chirurgien est promu inspecteur général des hôpitaux militaires. Il y développe des traitements contre les maladies vénériennes, se bat pour une nourriture plus équilibrée, des installations sanitaires correctes pour les militaires et leurs familles, mais aussi pour des catégories de population pauvres et délaissées, comme les prisonniers. Après une cinquantaine d'années au service de l'Angleterre, James Barry meurt vers l'âge de 75 ans à Londres, probablement de dysenterie, sans que son secret ne soit jamais dévoilé. Et nous n'en parlerions pas aujourd'hui si sa servante n'avait enfreint sa dernière volonté, celle de ne recevoir aucun soin après son décès. Découvrant le pot aux roses, James Barry était en fait une femme. Elle livre le secret à la presse qui ne manque pas de caricaturer le docteur et d'émettre des doutes sur ses compétences réelles. Précisément ce que le médecin souhaitait éviter. James Barry avait si bien dissimulé son secret que sa véritable identité, Margaret Bulkley, n'était, elle, découverte que dans les années 2000, au prix de très longues recherches.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Et pour en savoir plus sur cette étonnante Margaret Bulkley, alias James Barry, nous sommes avec Isabelle Beautian. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Bonjour Isabelle Beautian, vous êtes romancière et auteure de BD. Vous avez notamment co-signé avec Agnès Maupré la vie mystérieuse, insolente et héroïque du docteur James Barry, né Margaret Bulkley, paru aux éditions Stinkis. Il a fallu attendre les années 2000 pour que Margaret Bulkley soit réellement découverte et reconnue des scientifiques. C'était une nécessité de lui consacrer en 2020 une BD pour qu'elle soit un peu plus connue du grand public?
Alors oui, ça me semble toujours important de lever le voile sur les grandes femmes un peu oubliées par l'histoire. Et puis dans le cas précis de James Barry, je trouvais que sa vie et puis ses choix posaient des questions qui étaient encore très, très actuelles, notamment sur les sacrifices que la société impose à certains. On nous dit des fois des bêtises, parce que moi je juge d'être des bêtises, du genre « oh, quand on veut, on peut ». Alors même admettons que ce soit vrai, on peut peut-être, mais le prix à payer n'est vraiment pas le même pour tout le monde. Et plus généralement, un axe que je trouvais intéressant, c'était de ne pas parler uniquement du côté injuste des discriminations, mais du côté irrationnel. C'est pour ça que j'ai ouvert le livre sur une citation de Stendhal qui disait en gros que tout génie né femme était perdu pour l'humanité. Et la question que j'avais envie de poser, c'est où est-ce qu'on en serait d'un point de vue artistique, scientifique, politique, tout ce qu'on veut, si on ne s'était pas privé de plein de génies, femmes, noires, ou de pauvres naissances, ou que sais-je.
Alors, vous dites justement, on parle des sacrifices que Margaret Bulkley a fait pour réussir cette carrière de chirurgien et cette carrière dans l'armée, se travestir, se rajeunir. Elle était prête à tout pour ça. Elle a sacrifié une grande partie de sa vie pour maintenir ce secret. Elle n'a pas eu d'enfant, par exemple.
Elle a eu une fille. Elle a eu une fille, mais qui manifestement, elle a subi un viol quand elle avait environ 13 ans.
Ça n'a rien à voir avec une volonté de sa part du tout.
Mm-hmm. Mais oui, elle a renoncé à tout. Et puis, je pense qu'au début de sa vie, elle a pu s'en amuser quand même un peu. Elle séduisait les femmes, par exemple. Donc ça n'allait évidemment pas très loin. Ça ne pouvait pas aller très loin. Oui. Mais en fait, elle jouait le rôle d'un jeune homme un peu dandy. C'était quelqu'un d'assez charmant, donc elle dragouillait les dames de la belle société.
Ah oui, donc quelque part, elle l'a bien vécu. C'était un sacrifice qu'elle a, elle s'en amusait aussi. Ça n'a pas été trop lourd pour elle d'incarner ce... Elle ne l'a pas fait que pour être médecin, en fait.
Alors, je pense qu'elle l'a fait que pour être médecin, mais à partir du moment où elle a pu le choix, où elle savait qu'elle était obligée soit de conserver son déguisement, soit de renoncer à tout ce pour quoi elle s'était battue, je pense qu'elle a... pris ce qu'elle pouvait de ça. Et je pense qu'elle s'en est quand même un poil amusée au début. Après, sur la fin, ça devait quand même être un peu rude. Elle a eu des renoncements absolument énormes. Elle a eu très peu de vrais amis. Elle ne pouvait rien partager, évidemment. Après, ce que je trouve assez amusant à titre personnel, c'est qu'en fait, elle a assuré son secret en validant les idées préconçues des gens. Oui. Il y a eu des soupçons sur son genre, mais au final, les gens se disaient bon, non, de toute façon, ce n'est pas possible. Et pourquoi elle s'est rajeunie? C'est parce que les gens la voyaient, elle avait l'air d'un môme, en fait, quand elle était habillée en homme. Et elle s'est dit bah, ok, je suis un môme génial. Et bah, les gens l'ont cru. Et je trouvais ça assez brillant.
Ce qui est fou, c'est que Margaret Buckley a conservé le secret de son identité jusqu'à sa mort. On peut comprendre qu'elle est obligée de passer pour un homme pour faire des études, puisque les études de médecine étaient interdites aux femmes. Mais comment comprendre qu'elle n'ait pas eu l'envie ou le besoin de révéler qu'elle était une femme, au moins dans son testament, au nom des femmes, par militantisme, pour dire aux femmes, voyez, c'est possible, vous pouvez le faire.
Alors, c'est très, très difficile à dire, parce qu'elle n'a jamais laissé d'écrit personnel et pour cause. Je pense qu'elle avait une véritable conscience de ce qu'était la société de son époque. Et en fait, elle avait raison. Elle a été tournée en ridicule. Les premiers comptes rendus sur son histoire l'ont décrite comme une médiocre, comme une cruche qui serait fait passer pour un médecin pour suivre un amant dans les colonies, alors qu'il y avait des traces écrites, quand même, de ce qu'elle avait fait. En Afrique du Sud, elle était vraiment très réputée. Et ça a été totalement ignoré. Elle a été même moquée dans la fiction. Il a fallu attendre les années 50 pour qu'il y ait une première bibliographie qui la réhabilite. Donc, non, je pense qu'elle avait conscience de ça et qu'elle s'est dit, au moins, mes accomplissements, c'est un truc qu'on ne va pas pouvoir me prendre.
Alors, cette Margaret était rusée, elle était séductrice, elle avait compris tous les rouages du système. Et surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on aurait pu imaginer qu'elle, comme elle se grimait effectivement donc en homme, elle se faisait passer pour un homme pour pouvoir exercer sa fonction de médecin dans l'armée, on pourrait imaginer que sa logique, ça soit de ne pas faire de vagues. Or, pas du tout, c'était une forte tête et elle a toujours été forte tête. Elle allait souvent au conflit pour imposer ses vues. Est-ce que ça, parfois, ça a failli mettre sa carrière en péril?
Ah oui, en fait, sa carrière est une longue série de court-circuitages de hiérarchie, d'insultes à ses supérieurs. Et c'est d'autant plus étonnant que, visiblement, c'était une militaire née. Elle avait vraiment la vocation. Mais en fait, elle ne supportait pas l'irrationalité. C'était quelqu'un qui était intellectuellement brillant. Mais elle avait cette forme de naïveté de certains grands esprits qui consiste à ne pas comprendre ou à ne pas vouloir comprendre que les gens ne vont pas être convaincus simplement si on leur expose les faits. Et donc elle a exposé les faits, elle disait bah c'est bon, voilà les faits, donc faut être forcément d'accord avec moi. Et non, ça marchait pas comme ça. De sa vie, elle a jamais voulu comprendre ça. Et en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où elle savait qu'elle avait raison, il y avait plus de règles. On a des lettres, pour le coup, qu'on a retrouvées, dans lesquelles elle fait preuve d'une ironie, mais absolument puante envers ses interlocuteurs, et évidemment, elle les enrageait. Et c'était assez curieux, d'ailleurs, de voir ce côté buté sur ce sujet-là, de la part de quelqu'un qui, à côté de ça, était plutôt diplomate et a passé sa vie à jouer avec le système. Alors, c'est très drôle à lire quand on fait des recherches sur elle, mais pour les gens avec qui elle discutait, ça devait pas être très marrant. Et elle a eu des gros, gros problèmes.
Oui, d'ailleurs, Florence Nightingale, une autre héroïne de la médecine moderne, a déclaré à son égard qu'elle était la plus insensible créature qui lui avait été donnée de rencontrer. Donc elle avait aussi des zones d'ombre, c'était quelqu'un d'assez violent, d'assez tyrannique,
d'assez colérique.
Oui, oui, elle avait vraiment le sang chaud. Elle s'est, vous l'avez dit, elle s'est battue en duel avec un de ses amis. Elle a gagné ce duel d'ailleurs, alors que le gars était un vétéran de l'armée en face. Dans sa jeunesse, elle a tabassé, il n'y a pas d'autre mot, une infirmière qui l'avait surprise nue. Elle l'a fait virer. Ça aussi, vous en avez parlé. Après, dans le cas de Florence Nightingale, je pense qu'il y avait aussi un autre facteur. C'est que Florence Nightingale, c'était une bourge. Et en fait, James Barry, elle cumulait. Elle était, c'est pas juste une femme, c'était une Irlandaise catholique dans l'Angleterre conquérante protestante. C'était une femme de classe moyenne très basse. Il n'y a pas qu'en tant que femme qu'elle avait une revanche à prendre. Et je pense, et ses biographes aussi pensent, qu'elle supportait mal de voir, dans le cas de Florence Nightingale, cette héritière avoir les oreilles complaisantes des autorités sanitaires, alors qu'à côté de ça, il y avait des tas de médecins avec des tas de diplômes. Elle avait le culte du diplôme. Les médecins disaient la même chose et eux, on les écoutait pas. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait eu aussi une forme d'aigreur dans son comportement vis-à-vis de Florence Nightingale.
Dans sa façon d'exercer son métier de chirurgien, est-ce que vous diriez que le fait d'être une femme l'a aidé à appréhender le corps des autres femmes? Certains ont remarqué par exemple sa douceur lorsqu'elle a osé faire cette césarienne dont parlait Stéphane en 1826.
Oui, je pense. En tout cas, je pense que ça lui donnait au moins une perspective en fait, sur la manière dont les femmes étaient négligées par la médecine. En fait, elle a fait sa thèse de doctorat sur les hernies fémorales qui peuvent notamment être causées par le port de corset, donc ça a commencé assez tôt. Par la suite, elle s'est battue pour que l'intimité de ses patients soit respectée, ne serait-ce que pour les encourager à consulter, parce que ça pouvait vraiment être un obstacle. En fait, elle avait une idée de ces choses parce qu'elle les avait vécues, mais je pense que c'était aussi, encore une fois, la grande logique qu'elle pouvait avoir. Par exemple, elle savait que si on négligeait la santé des prostituées pour des raisons morales, ça allait poser des problèmes de santé publique. Donc voilà, elle-même n'était pas, pouvait être parfois, si je peux me permettre, avoir un petit balai dans le cul, si j'ose dire. Elle était très catholique, elle pouvait être un peu compassée, elle était, enfin, de manière très sympathique, hein, mais voilà. Et je pense qu'elle-même avait des fois des principes moraux un peu rigides, mais elle ne les laissait pas aller à l'encontre de la raison et de la santé de ses patients.
Enfin, des principes moraux rigides, en même temps, dans votre BD, vous prenez le parti de lui prêter cette relation amoureuse ou sentimentale avec Lord Somerset.
Oui.
Pourquoi ? C'était une relation intéressée ? C'était de l'amour ou c'est fake news ?
Ah non, c'est pas fake news, il y a des soupçons. Pareil, encore une fois, elle n'a pas laissé de lettre, donc on ne peut pas savoir, mais il y a eu des soupçons. Il y a
Et Lord Somerset non plus.
Là-dessus, non, certainement pas. En fait, non, je pense que c'était à minima une grande amitié, ça c'est certain. Dans la BD, j'ai fait ce choix aussi pour montrer l'étendue des renoncements qu'elle avait dû faire. Après, je ne pense pas que c'était intéressé. Très clairement, elle a profité de lui, mais elle a profité de lui dans le sens où elle a profité de sa position, de ses relations. Mais ça, c'était quelque chose d'admis, de consenti, voire d'encouragé dans la société de l'époque. Et Charles Somerset en était parfaitement conscient. Par contre, dans les faits, ils ont toujours été là l'un pour l'autre. Lui, il l'a soutenu quand on leur a prêté une relation homosexuelle, ce qui était quand même un crime à l'époque. Lui, il aurait pu la lâcher, et elle était finie. S'il l'avait lâchée, il ne l'a pas fait. Et elle, carrément déserté son poste pour se rendre à son chevet à Londres quand il est décédé. Ça aurait pu avoir d'énormes conséquences pour elle. C'était totalement désintéressé. Donc, est-ce qu'elle s'est servie de ses relations ? Oui. Est-ce que c'était intéressé ? Non. Ils étaient vraiment à minima profondément amis et peut-être amants, mais ça, pareil, ça reste de la supposition.
Mais écoutez, en tout cas, merci Isabelle Bautian. Je rappelle votre BD co-signée avec Agnès Maupré, La vie mystérieuse, insolente et héroïque du docteur James Barry, née Margaret Bulkley, aux éditions Stinkis. Merci beaucoup Isabelle Bautian d'avoir été avec nous.
Merci.
Eh bien, merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires que même les gazettes n'oseraient pas raconter, tellement c'est grivois et indécent. Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous plongez dans la vie d'un homme qui a joué la comédie, Jean Gabin. Et la comédie, il l'a joué aussi avec les femmes, mais tout ça était secret. Vous allez donc nous révéler d'incroyables secrets.
Bon, ce n'est pas du tout d'incroyables secrets. Je ne raconte en aucun cas des histoires grivoises et indécentes. Non, mais dites donc. Mais Non, mais n'importe
on
quoi.
Vous écoute.
Alors, monsieur, dame qui m'écoutez, non, non, moi je suis pour la paix des ménages. Et d'ailleurs, je m'attriste beaucoup de constater que Gaby Basset, Jeanne Mochin sont des noms relativement inconnus au bataillon. Christiane Fournier, sa dernière épouse, oui, on la connaît mieux. Mais quand on regarde des bouquins, des articles sur Jean Gabin, évidemment, on tombe systématiquement sur son histoire d'amour adultérine, si j'ose dire, avec Marlène Dietrich. Évidemment, c'est plus glamour, c'est l'histoire, son histoire la plus échevelée, celle qui fait rêver dans les chaumières, parce qu'elle se passe sur fond de guerre. Et puis, ce sont deux vedettes de cinéma en pleine gloire. Hein. Alors, en plus, avant de s'engager dans la guerre, ils s'installent ensemble à Beverly Hills, dans une maison que leur loue Greta Garbo. Vous voyez, tout ça, c'est quand même très, très, très bon pour les magazines People. Bon, lui, en plus, le mélange des deux, lui français, né boulevard de Rochechouart, qui fuit la France dès février 41 parce qu'il refuse de tourner dans des films financés par les Allemands. Elle, allemande, mais fuyant le nazisme. Il y a quand même, on ne peut pas imaginer de couple plus publicitaire que Marlène Dietrich et Jean Gabin. Et leur histoire va durer 6 ans. Au début, ils sont donc installés à Beverly Hills. Alors comme lui, la France lui manque, bien sûr. Hein. Il est comme le Mexicain dans les Tontons Flingueurs. Quand il est loin de son pays, il est malheureux. Elle essaie de lui faire la cuisine française pour qu'il n'ait pas trop le mal du pays. Mais si, justement, lui, il a le mal du pays et il veut aller se battre. Et il obtient finalement gain de cause en janvier 44. Il embarque comme canonnier sur un pétrolier militaire pour traverser l'Atlantique vers Casablanca. Il a le rend le titre de second maître parce qu'il ne voulait pas porter un béret avec un pompon rouge. Il trouvait que c'était plus de son âge. Non, c'est marrant, mais c'est vraiment, c'est notamment pour ça. Hein. Donc, il va rencontrer à Alger le ministre de la Marine. Et le ministre de la Marine lui dit « Bon, écoutez, monsieur, vous allez rentrer dans le théâtre aux armées. » Mais Gabin ne veut pas en entendre parler. Il veut intégrer une unité de combat. Et finalement, certainement, ce qui va lui être très, ce qui aura beaucoup servi dans cette histoire, c'est qu'il rencontre Massu. Et ils ont eu une soirée tous les deux. Il faut imaginer, vous savez, la soirée de bistrot entre Gabin et Belmondo dans Un singe en hiver.
Ah oui.
Et ces deux-là ont passé une nuit à picoler tous les deux. Et Massu a dû réaliser que Gabin était d'une autre étoffe qu'un simple comédien. Et que quand il disait, moi, le théâtre aux armées, je ne vais pas aller pousser la chantonnette pour les soldats, je veux me battre. Donc il a certainement influé sur la décision finale. Et donc il va intégrer le régiment blindé de fusiliers marins, qui est une des unités de la deuxième BD. Et BD, j'ai dit BD au lieu de DB, la division blindée. Et il sera chef de char. Son blindé est un M10 américain, un char de 30 tonnes, qui est baptisé, vous savez, le nom du char de Jean Gabin, super célèbre. Bon, alors le souffleur 2, je viens à votre secours. Et pourtant, fait remarquer l'un des biographes de Jean Gabin, Patrick Glâtre, Gabin est claustrophobe et il a peur du feu. Hein. Mais il y va quand même. Et il sera le plus vieux chef de char des FFL. Au printemps 45, il participe au combat de la poche de Royan et à la campagne d'Allemagne, terminus en mai 45. À Berchtesgaden, dans le nid d'aigle d'Hitler. Il a été jusque-là, mon vieux. C'était un homme d'une sacrée trempe. Et quand des soldats de la 2e DB lui demandent des autographes, il refuse. Il dit « Gabin est resté à Hollywood, c'est Montcorgé qui est là ». Près de Berchtesgaden, Marlène Dietrich le cherche partout. Elle demande le char de Gabin. Elle finira, grâce à des soldats qu'elle interroge, par le retrouver. À la fin de la guerre, le second maître Montcorgé est décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre. À partir de ce moment-là, il a refusé systématiquement de tourner en uniforme dans un film. Il a même repoussé la participation à Paris brûle-t-il, alors qu'il aurait été plutôt légitime pour incarner un...
Bon, ben non, pourquoi il voulait pas ?
Parce qu'il a considéré que, si vous voulez, il y avait quand même le cinéma et la guerre, et c'était deux choses différentes, et qu'il allait pas, il avait endossé un uniforme, mais pas pour du beurre, puisque, je le disais à l'instant, il est allé jusqu'au nid d'aigle d'Hitler, et donc il ne voulait pas incarner un personnage se battant. Il a même refusé à la Libération de défiler sur les Champs-Élysées. Il a regardé passer son char d'assaut depuis une chambre la chambre d'un hôtel. Hein. Et bon, alors, côté sentimental, évidemment.
Ah ben voilà,
alors
c'est là, ça que vous nous
bien
aviez
sûr.
Promis.
Alors, Marlène Dietrich, elle aussi, justice est engagée, mais elle au théâtre aux armées pendant 3 ans. Donc pendant ces 3 années, ils ne sont quasiment pas vus. Et malheureusement, le lendemain de la guerre, leur histoire d'amour a commencé à s'étioler parce que lui ne voulait pas aller vivre aux États-Unis. Il ne voulait pas en entendre parler. Et ça s'est même très mal fini parce qu'après, il parlait d'elle en l'appelant la boche, enfin, vraiment sans aménité. C'est une histoire qui s'est vraiment mal terminée. Et à ce moment-là aussi, Gabin s'est marié pour la 3e fois avec un ancien mannequin, Marcel Fournier, dit Dominique, qui était dans le monde de la mode. On la connaissait sous ce nom. Elle est morte, Dominique Gabin, en 2002, à 84 ans. Donc toutes les femmes et les maîtresses nombreuses de Gabin lui ont survécu de beaucoup, parce qu'il est mort en 1976, Jean Gabin. Oui. Alors bon, vous me connaissez. J'ai regardé, bien sûr, toutes ces dames, je le disais, sont mortes. Par contre, le char d'assaut, lui, ben, j'ai réussi à remettre la main dessus. Alors malheureusement, l'original, je comprends votre consternation, a été détruit. Mais il en existe, par bonheur, une copie conforme en Alsace au musée militaire de Wanzenau. C'est une version restaurée d'un char identique, le Souffleur 2. Donc vous pouvez, le week-end prochain, si vous cherchez des distractions, aller voir le Souffleur 2 à Wanzenau.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Clémentine.
La belle idée
de
distraction.
Ça donne un beau
programme pour le week-end. Voilà, maintenant, grâce à vous, merci beaucoup,
merci
Clémentine.
Merci beaucoup.
Vous restez avec nous, parce qu'une autre distraction, souvent douloureuse pour Stéphane, le quiz.
Born to be alive.
Wow.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Quand on a passé sa vie à prétendre qu'on était balèze en histoire, on a même construit toute une carrière autour de cette affirmation, il est impossible de reculer. La devise de Stéphane Bern était donc
« Ne jamais avouer son imposture ».
Hélas, le quiz est arrivé et en dépit de son pouvoir et de ses relations au placé, il n'a pas réussi à le faire interdire. Jouons à Bern to be alive.
Question numéro 1. Hein, parce que franchement,
supprimer le quiz.
Sinon, je l'aurais supprimé.
C'est vrai. Oui. Alors attention, question numéro 1 pour vous, Stéphane. Cary Grant, Ingrid Bergman, Alfred Hitchcock, ils sont réunis dans le film Les Enchaînés en 1946. Alfred Hitchcock va devoir payer une amende pour ce film car il contient le plus long baiser de l'histoire du cinéma, 2 minutes 30. Alors qu'à l'époque, seules 8 secondes de baisers sont tolérées. Vrai ou faux?
Et je crois que j'ai entendu cette histoire.
Ça me dit quelque chose.
Ça me dit quelque chose. Mon intuition me dit que
votre
c'est vrai.
Votre intuition va-t-elle vous porter vers la bonne réponse?
Est-ce que c'est 2 minutes 30? Est-ce que c'est une... Vous savez, après, il y a tellement de pièges chez vous. Vous êtes tellement...
Vicieux. Vous pouvez dire le mot. Hein. Vicieux, vous pouvez y aller. Vous savez, j'en casse tout. Hein.
Mais écoutez, bon, en toute naïveté, je dirais oui, c'est vrai.
Vous avez... perdu.
Vous aviez bel et bien entendu parler de cette histoire, pour une raison simple, c'est qu'elle est presque vraie. Le réalisateur n'a payé pourtant ni amende, ni été censuré, car si les baisers ne devaient effectivement pas dépasser les 8 secondes, et si le baiser de Gary et Ingrid a effectivement duré 2 minutes 30, ils ont fait des pauses toutes les 8 secondes pour rester dans le cadre de la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous souvenez de cette scène?
Oh, écoutez,
ça,
là,
ça s'en va et ça
revient. Là, c'est quand même assez machiavélique. Hein.
C'est très, très machiavélique. C'est le quiz. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Le plus vieux texte de loi en France, toujours en vigueur aujourd'hui, date du XVIe siècle. Vrai ou faux? Toujours en vigueur aujourd'hui.
Pourquoi pas? Écoutez, ça pourrait être quoi? Une disposition sur des chemins vicinaux, sur le droit de chasse dans une forêt, sur...
Je ne peux pas vous aider.
Vous ne pouvez pas m'aider, mais je...
Oui, ça peut être...
Oui, c'est crédible en tout cas, je répondrai oui.
Vous avez... gagné!
C'est vrai, mais ce n'est pas sur un point de détail, comme vous sembliez le dire. 1539. C'est la date. Ce sont deux articles qui n'ont jamais été abrogés venant de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Ils sont signés François Ier.
Sur le français, sur l'usage du français
dans les textes de loi et législatifs.
Voilà un point pour Clémentine, mais aussi un point pour Stéphane, qui nous a donné effectivement la précision. Quand c'est le français comme langue officielle.
Vous avez cité l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Oui. Stéphane connaît ça par cœur.
Eh bien, néanmoins, j'estime. Ouais. J'estime, et d'accord, c'est moi qui décide que ça vaut.
Ça vient de votre incompétence
partout,
en la matière.
Hein.
Regardez-le
partout.
Qui ricane, il le sait très bien. Il se dit, oh là là, l'autre andouille, il ne connaît rien.
Il se dit, ce con
je lui dis, Villers-Cotterêts, oh là là, bravo, un point. Ouais, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.
Oui, alors j'ai été traité d'andouille, je le note, ça pourra effectivement un point pour être tranché.
Vous avez raison, j'aurais dû dire grand dépendeur d'andouille.
Question numéro 3 pour vous, Stéphane. On peut considérer que l'on doit aux Mésopotamiens le système de numérotation basé sur 60. 360 degrés étant 6 angles de 60 degrés comme l'heure, et 60 minutes dont l'unité fait 60 secondes. D'ailleurs, seconde vient de la mythologie mésopotamienne, le nom vient d'une divinité primordiale de la création. Vrai ou faux ?
Une divinité qui s'appelle comment ?
Qui s'appellerait seconde, dont le mot signifierait seconde. Ça me dit quelque chose, mais j'aurais plutôt dit que le mot était latin, c'est pas ça ?
Si je peux vous donner un conseil, quand ça vous dit quelque chose, souvent c'est plutôt l'inverse.
Oui, alors non.
Oh non, c'est une bonne réponse de Stéphane.
C'est plutôt romain, me semble-t-il, en plus le mot seconde, non ? C'est plutôt latin.
Vous avez gagné, Stéphane. On dit seconde tout simplement parce que c'est la seconde division de l'heure, la première étant la minute. Ça n'a rien à voir avec le panthéon mésopotamien. Voilà, j'essaie juste de vous embrouiller. Question numéro 4 à présent, les amis. Le 18e a été un siècle particulier pour les Noirs en France. Avant 1778, il existe une police des Noirs. Les mariages entre Blancs et Noirs sont interdits. Après 1778, c'est le droit coutumier du sol libre. Tout esclave qui met le pied en France devient libre. Vrai ou faux ?
Alors, 1778 ?
Exactement.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on aurait créé, après la Société des Amis des Noirs, c'est Brissot, c'est Priestler, sont des Anglais, c'est Lafayette, mais c'est... Et ça veut dire que c'est le roi de France qui aurait rendu libre toute personne mettant le pied en France en 1778. C'est possible en même temps.
Alors, il y avait la loi d'Henri III sur le droit du sol.
Ce que je trouve curieux là-dedans, c'est que l'idée de donner la citoyenneté française et donc la liberté à tout étranger sur le sol français, c'est 1792. C'est le fameux décret qui...
Oui, mais il y a la loi d'Henri III.
Écoutez, je trouve que ça aurait été une idée magnifique et qui rendrait à l'ancien régime et à la monarchie française une noblesse qui lui a été bien contestée dans les années qui ont suivi. Donc je vais dire oui en espérant que ce soit vrai.
Vous avez... perdu.
Mais vous avez perdu. Non, l'histoire n'est pas aussi belle que vous le rêveriez.
Principe de réalité. Oui.
C'est l'inverse exactement qui s'est produit. Au XVIIIe siècle, on compte des milliers de Noirs dont la France garantit la liberté. 1777, changement d'ambiance. Louis XVI promulgue sa déclaration pour la police des Noirs. Elle s'appelle comme ça. On ne peut amener aucun Noir ou mulâtre dans le royaume. L'année suivante, les mariages mixtes sont interdits. À Paris, ils doivent même se faire enregistrer sous prétexte d'être renvoyés dans les colonies. Voilà l'histoire.
Mais c'est vrai, parce qu'il y avait même un marché rue de Bussy, je pense. Oui. Ah là, ben bon. Mais ce qui veut dire qu'auparavant, avant Louis XVI, c'était le cas. C'est quand même assez magnifique, ça. Je trouve que c'est une réalité qu'il faudrait rétablir et clamer bien.
Vous voyez toujours le bon côté des choses. C'est ça
oui,
qui est bien.
Oui, bien sûr.
C'est une victoire pour Stéphane.
J'ai perdu,
vous avez complètement perdu.
J'ai perdu au nom d'un bel idéal.
Oui, c'est bien l'essentiel, mais Stéphane, vu son sourire, ça me dit qu'il s'en fout complètement. Il est content d'avoir gagné.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui, chaque après-midi, vous raconte l'histoire sans se la raconter mieux. En riant.
Oui, Stéphane, bonne humeur et savoir vont main dans la main chaque après-midi sur Europe 1, comme nous, à la rencontre de trois personnages très différents, mais qui ont chaque fois un point commun. Aujourd'hui, celui d'avoir caché un sacré secret. Des secrets, je le disais tout à l'heure, bon, on en a tous. Vous, par exemple, Stéphane, vos amis les plus intimes savent que pour booster votre libido, vous aimez avoir recours à des petits jeux de rôle.
My name is Bern, Stéphane Bern.
Nos personnages, eux, ne se sont pas contentés de se déguiser comme vous. Ils cachaient de plus lourds secrets encore.
Oui, Mathieu, après l'incroyable histoire de Margaret Vol Clegg, qui toute sa vie s'est travestie en homme pour pouvoir exercer la profession de chirurgien, je vous raconte le secret qui hantait Romy Schneider. Il concernait sa mère et ses liens décidément un peu trop sulfureux avec les nazis.
Oui, une sale histoire, enfin, sauf évidemment pour David Castello-Lopez qui se réjouit d'entendre ce récit.
Les histoires avec des nazis, on n'y peut rien, c'est cool.
Mais pour ma part, je reviendrai sur les confessions de Carrie Fisher, la célèbre princesse Leia de la Guerre des Étoiles, qui 40 ans après le tournage de la saga culte a révélé dans son autobiographie qu'elle avait un peu trop joué avec le sabre laser d'Han Solo. Harrison Ford, qui était marié à l'époque.
C'était peut-être un canif laser.
toute une histoire, on y revient tout à l'heure, sans tabou.
Quel scandale. Alors, sans oublier nos chroniqueurs qui cachent aussi des secrets, mais qui vont les révéler dans l'émission. David Castel-Lopez qui nous révèle les origines de la barrière des travaux des villes.
Oui, en particulier celle de Paris, les barrières vertes et grises de chantier. Je sens que vous palpitez.
Oui.
Olivier Pouls à ma droite, là, qui ne sait pas s'il va pouvoir attendre.
Le suspense est Hitchcockien.
Voilà. Il palpite parce que lui connaît le secret du secret. Mmh. Il secreto del secreto.
Ouais. Moi, vous révélez des secrets, moi je les cuisine. Et je vais vous cuisiner un secret.
Alors, c'est quoi le secret? Il faut quand même dire un petit peu ce que c'est. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Vous
m'avez le cochon?
Ben, je vous dirai tout à l'heure. C'est une partie du cochon particulièrement goûteuse parce qu'elle est assez grasse. Et c'est une découpe spécifiquement espagnole qui concerne les fameux cochons ibériques.
Mmh, la pata negra.
Entre autres, ça sert à faire la pata negra.
Merci. Le mot de la fin, Stéphane, c'est vous qui l'aurez comme d'habitude chaque jour. L'histoire d'une expression aujourd'hui.
Oui, quand par exemple vous posez les questions du quiz, vous êtes là avec cet air de morgue supérieure.
Oui, c'est vrai,
et
c'est tout moi.
Vous faites une démonstration de puissance, David. Vous nous tenez la dragée haute. Bah, oui. D'où vient cette étonnante expression?
J'y prends beaucoup de plaisir. Mmh. Vous nous direz d'où vient l'expression tout de suite. Plongeons-nous, les amis, dans les archives. Stéphane nous raconte les confessions d'une des plus grandes actrices de l'histoire, Romy Schneider.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Ce soir de décembre 1976, dans une petite pièce sous les toits de Cologne, Romy Schneider, au sommet de sa carrière, livre une longue interview à Alice Schwarz, une journaliste féministe allemande qu'elle estime. Des pistes audio sorties d'un tiroir des décennies plus tard par la reporter et qui sont racontées dans un documentaire écrit par Patrick Judy, sorti en 2017. Cette nuit-là, Alice écoute l'actrice, qui ne s'est plus confiée à aucun journaliste depuis bien longtemps, parler de sa vie, de ses parents, de son enfance pendant la guerre en Allemagne. Soudain, Romy demande à son interlocutrice d'arrêter l'enregistrement et lâche comme une bombe. « Ma mère a couché avec Hitler. » Rosemary Magdalena Halbach, de son vrai nom, a alors 38 ans. C'est une star internationale. Elle vit en France, tourne avec les plus grands réalisateurs et semble bien loin de ses années de guerre. Mais ce soir-là, elle plonge dans ses souvenirs et laisse échapper ce que Luchino Visconti appelle son spleen germanique. L'actrice évoque son enfance dans les années 40, entre la maison familiale des Alpes bavaroises et le pensionnat Goldenstein dirigé par des sœurs Augustines, où elle ne reçoit que très peu de visites. La solitude marque ses jeunes années. Ses parents, Wolf et Magda, comédiens tous les deux, sont très souvent absents. Ils se partagent l'affiche des films populaires de l'époque, outre-Rhin. En 1945, ils divorcent. Magda épouse en seconde noce Hans Ebert Blatzheim, un beau-père envahissant qui bientôt terrorise la jeune fille en tentant à de nombreuses reprises d'abuser d'elle. Au début des années 50, Magda Schneider sort sa fille de l'internat pour la placer sur un plateau de cinéma. Tout le monde observe sa beauté, son aisance, sa photogénie. Sa carrière est lancée et le succès est immédiat. Une notoriété viendra 2 ans plus tard avec Sissi, une trilogie aux couleurs pastel, version édulcorée, de la vie d'Elisabeth de Wittelsbach, impératrice d'Autriche. Pour des générations de petites filles, Romy Schneider incarne la parfaite princesse aux crinolines voluptueuses, aux cheveux tressés, toilés de fleurs blanches. L'actrice se sent pourtant à l'étroit dans ce carcan un peu mièvre de personnages de contes de fées. Elle aspire à autre chose et souhaite aussi échapper au chaperonnage de sa mère, qui joue la maman de Sissi à l'écran, et de son beau-père, qui récupère les cachets de Romy pour son propre compte.
C'est vraiment sympa celui-là. Hein,
alors qu'on offre 1 million de marques à la jeune fille pour un nouvel opus, elle refuse. Romy a déjà tourné la page. Elle a rencontré Alain Delon sur le tournage du film Christine en 1958. C'est même elle qui l'a choisi sur photo pour être son partenaire. Les deux acteurs tombent fous amoureux. Romy s'installe à Paris et apprend le français. Mais si elle tourne pour Orson Welles et Otto Preminger, sa nouvelle carrière ne prend pas. Pour beaucoup, elle est encore Sissi et rien d'autre. Après un passage avorté par les studios hollywoodiens et une rupture avec Delon, l'actrice rentre en Allemagne où elle épouse le metteur en scène Harry Mayen, dont elle a un enfant, David, en 1966. La vie de mère au foyer ne lui suffit pas. 2 ans plus tard, Romy retrouve son ancien amant qui l'impose dans un film bientôt culte, La piscine de Jacques Deray. Romy crève l'écran et révèle toute la palette des émotions dont elle est capable. La comédienne a 30 ans. Chez Claude Sauté, elle incarne bientôt la femme émancipée des années 70 et donne la réplique au plus grand, Samy Frey, Yves Montand, Jean-Loup Trintignant. Dans sa vie personnelle aussi, Romy Schneider s'émancipe et assume un mode de vie et des positions qui choquent l'opinion conservatrice. En 1971, elle signe le manifeste des 343 en faveur de l'avortement. La presse allemande l'accable. Les paparazzi traquent ses moindres faits et gestes et comptent le nombre de bouteilles de vin dans ses poubelles au bas de son immeuble. Alors, ce soir de 1976, de passage à Cologne, Romy Schneider confie à Alice Schwarzer en français toute la complexité de sa relation avec l'Allemagne. Elle raconte la maison de Berchtesgaden, située juste en face de la résidence secondaire d'Adolf Hitler, le Berghof. Elle dit ses jeux d'enfants avec les fils des dignitaires nazis et des relations qu'entretient sa mère avec leurs parents, sans doute davantage par opportunisme que par conviction. Magda a-t-elle vraiment eu une relation avec Hitler ? Nul ne le sait finalement, mais elle l'a côtoyé assurément. Sur des images filmées par Eva Braun, la compagne du dictateur, on la voit tout sourire en élégant manteau noir, discuter avec le Führer. Bien des années plus tard, la vieille dame se défend, expliquant n'avoir accepté l'invitation qu'après des demandes répétées de Hitler. Pour Romy, qui découvre adulte la réalité de l'horreur nazie, cette proximité, quelle qu'en soit la nature exacte, est un fardeau. D'autant que le grand-père de son fils David a disparu dans un camp de concentration. Alors au cinéma, comme pour expier le passé de sa famille et de son pays, l'actrice enchaîne les rôles de victime du nazisme. Juive allemande traquée, veuve d'un résistant ou femme violée et assassinée par les SS dans le vieux fusil. Par son travail, Romy entreprend un travail de réparation. En 1975, la star se marie une deuxième fois avec son secrétaire particulier, Daniel Biasini. Le couple accueille une petite fille, Sarah, 2 ans plus tard. Mais l'histoire ne dure pas. En amour, Romy n'est pas souvent heureuse. L'angoisse, la pression et la tension dont elle fait l'objet lui font parfois traverser des moments difficiles. En 1979, le suicide de son premier mari la bouleverse. 2 ans plus tard, elle subit une lourde opération, l'ablation d'un rein. Quelques mois plus tard, son fils de 14 ans meurt dans un tragique accident. Même dans ce moment abominable, les paparazzi ne laissent pas l'actrice tranquille et un photographe déguisé en infirmier parvient à photographier l'enfant sur son lit de mort. Dans La Passante du Sans Souci, son dernier film, l'actrice lie encore la fiction à la vie en jouant la mère d'un garçon de 14 ans. Sur le tournage, elle vit cloîtrée dans la pénombre de sa chambre, entourée de photos de son fils. Anéantie par le drame, Romy Schneider s'éteint l'année suivante, à 43 ans seulement. Suicide, abus de médicaments, le décès subi fait naître tous les fantasmes, mais aucune autopsie n'est réalisée. La grande actrice emporte avec elle ses ultimes secrets.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Romy Schneider, nous sommes avec le réalisateur Patrick Jeudy qui a réalisé le documentaire Conversation avec Romy Schneider. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Bonjour Patrick Jeudy, vous êtes auteur, réalisateur de documentaires. En 2017, vous avez signé Conversation avec Romy Schneider que nos auditeurs peuvent voir sur le site arte.tv. Un documentaire basé sur les confessions que Romy Schneider a faites à la journaliste allemande Alice Schwarzer le temps d'une nuit à Cologne en 1976. Avant d'évoquer la nature de ces confidences, qui est en 1976 cette Alice Schwarzer à laquelle Romy Schneider s'est confiée ?
Alors Alice, en 1976, vient de créer un journal féministe. Un journal féministe qui s'appelle Emma. Et pour son premier numéro, elle a eu l'idée de s'adresser à l'icône de l'Allemagne, Romy Schneider. Alors Alice, il faut le savoir, est une féministe allemande qui a été très proche de Simone de Beauvoir, qui plus tard, après, a été conseillère d'Angela Merkel. C'est vraiment la féministe allemande qui est aussi à l'origine de l'appel pour l'avortement, les fameuses 343, celles dont vous avez parlé tout à l'heure.
Alors l'histoire de ce documentaire est un peu dingue quand même. C'est elle qui vous confie ses bandes bandes et son témoignage. Pourquoi elle a sorti ses bandes 35 ans après la mort de l'actrice ?
Alors, oui, elle ne les a pas sorties. En fin de compte, le film devait être pour Arte. Oui. Et Arte passait son temps à me retoquer mon histoire de Romy Schneider. Je voulais en faire un film romantique, passionné. Alors, j'ai cherché dans la presse allemande des années 70, 80, et je suis tombé sur ce nom, Alice Schwatzel, qui aurait recueilli des confidences le temps d'une nuit. Une nuit. Alors, aussitôt, cette unité de lieu, de temps, d'action, je me suis dit, ah, voilà un beau départ, mais je ne voulais en faire qu'un beau départ, un beau début de film. Et de conversation en conversation, je suis allé à Cologne la voir, elle nous a dit, ah oui, j'ai bien par là une cassette qui a été enregistrée, mais elle avait perdu la cassette. Et le suspense a duré comme ça pendant 6 mois, le temps qu'elle la retrouve.
Mais on sent que Romy Schneider, à ce moment-là, a envie de se confier aussi. Ce n'est pas seulement une demande de cette Alice, elle se livre totalement. Elle aurait eu cette phrase « Je veux que ton article sur moi choque tout le monde ».
Oui, c'est très conjoncturel parce qu'en cette année 76, elle tourne à Berlin, c'est-à-dire c'est son retour en Allemagne. Et là, les paparazzis se sont réveillés. Toute la presse allemande l'a attaquée toujours sur cette histoire avec Alain Delon. Et elle n'en peut plus et elle saisit l'occasion, effectivement, de cette rencontre avec Alice pour tout cracher.
Alors, justement, pendant cette nuit, Romy Schneider revient sur les liens embarrassants de sa famille, notamment de sa mère, avec le nazisme. Qu'est-ce qu'elle révèle exactement cette nuit-là ?
Écoutez, elle y va peu à peu. Elle y va peu à peu parce que sa mère est toujours vivante. Mmh. Alors elle en parle, elle cite sa mère, sa grand-mère, elle dit comme ça les liens. Elle parle de son père, mais elle ne dit rien sur son père. Or, il faut savoir que son père, lui, était vraiment très 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 proche des nazis. Il était militant, mais elle épargne parce que c'est son père. Alors sur sa mère, elle commence par dire, oui, ma mère, la maison à Berchtesgaden qu'elle a fait construire en face du nid d'aigle. Bon, et là, elle sous-entend des choses, et puis au moment de cracher cette douleur, elle dit à Alice, coupe le magnéto. Et là, il faut faire confiance à Alice. Peut-on faire confiance à Alice ? Elle dit, voilà, ma mère a couché avec Hitler. Et sans doute que là, elle se met à un petit peu développer. Mais pour Alice, qui nous le retranscrit des années après, il y a certainement, sans doute, probablement une part de fantasme. Mais une part de fantasme néanmoins qui reflète cette espèce d'obsession qu'elle avait que sa mère ait pu coucher avec Hitler.
Et pourquoi elle fait couper le magnéto ? Pour épargner sa mère ou par pudeur ou par...
Oui, je crois qu'elle a peur. Elle a peur que ça... Elle le dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Elle le dit à Alice, si tu me trompes, Alice, ça serait très grave. Mais elle a toujours cette peur obsessionnelle que ça sorte. Et d'ailleurs, à l'époque, j'ai lu un entrefilé. Le bruit courait que sa mère aurait couché avec Hitler. Mais ça n'a été qu'un bruit. Elle ne l'avait jamais officiellement, si j'ose dire, révélé.
Alors, elle a eu cette pudeur, cette nuit-là, Romy Schneider, mais vous aussi, Patrick, vous avez eu une forme de pudeur, vous gardez une certaine pudeur dans le documentaire, vous auriez pu être, entre guillemets, un peu plus trash, vous avez tenu à laisser certaines choses dans le secret par respect.
Oui, vous savez, nous avons une haute idée de nous-mêmes quand nous faisons un film. Et je tenais à ce que ça soit un film de haute tenue et pas un film justement de paparazzi. Oui. On a essayé de suggérer des choses dans des images en essayant de garder un petit peu d'élégance. Mais c'est vrai qu'on aurait pu un petit peu en dire plus. Mais voilà, je ne l'ai pas fait.
En tout cas, merci beaucoup Patrick Jeudy de nous avoir répondu. On peut voir ou revoir votre documentaire Conversation avec Romy Schneider sur le site arte.tv. Et j'annonce aussi que votre prochain documentaire Salvatore et Adamo, ma vie, la vraie, sortira à la fin de cette année. Merci beaucoup.
Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, on évoque ces femmes qui ont longtemps caché un lourd secret. Et après Margaret Bulkley et Romy Schneider, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, à 99% vrai, d'une actrice plus contemporaine qui elle aussi a caché un secret. Carrie Fisher, la mythique princesse Leia de Star Wars.
Décidément, Stéphane, et les grandes actrices sont aussi bien souvent de grandes cachetières. Alors qu'on se remet à peine de cette incroyable histoire de Romy Schneider, dont la mère aurait couché avec Hitler.
Jacqueline Renaud aussi.
Oui, mais avançons, non. Stéphane, avançons.
Non.
Voici
non.
maintenant, mais ça c'est l'histoire
non.
ancienne.
Ah, non.
Voici maintenant l'histoire secrète de Carrie Fisher, la princesse au macaron sur la tête, avec son partenaire de jeu dans la saga Star Wars, puisque oui, tel est le coup de tonnerre qui retentit dans le ciel d'Hollywood en 2016 lors de la publication de The Princess Diaries, son autobiographie. Entre la princesse Leia et Han Solo, ce n'était pas du chiquet. Sur le tournage de Star Wars, Carrie Fisher se serait bien et bien tapé, 40 ans plus tôt, Harrison Ford. Harrison, qui était alors marié et père de famille, en gros...
C'est une pute.
Non, Stéphane, simplement une très jeune femme éblouie par le sex appeal d'un acteur plus âgé qu'elle. Carrie avait 19 ans seulement, mais elle faisait plus. Comme le dirait Jean-Luc Lahaye, qu'on embrasse à la Brigade de protection des mineurs.
À 13 ans, elle en paraît déjà 16.
Comme c'est seulement la 12e fois qu'on évoque Star Wars dans cette chronique, je n'ai pas besoin de replanter le décor. Carrie Fisher incarne la princesse Leia Organa et Harrison Ford, le beau gosse, un peu tête brûlée, Han Solo. Où, quand, comment, l'actrice n'a pas hésité, pour notre plus grand plaisir, à entrer dans les détails. Elle serait tombée sous son charme lors de la soirée d'anniversaire de George Lucas, le réalisateur. Vous savez ce que c'est, un Kirk Framboise en appelle un autre, et de Morito en Caipi. On ne voit plus très clair. Carrie Fisher raconte « J'étais tellement torché ce soir-là, j'aurais même pu coucher avec Chewbacca ». Par chance, c'est bien Harrison Ford qui l'entraîne à l'écart dans une chambre et pas Chewbacca. « Je n'avais aucune expérience, mais il y avait quelque chose en lui qui m'inspirait confiance. Il était tellement doux ». Tu m'étonnes, on est doux quand on a une idée en tête. Tout commence par un massage. Et bien évidemment, Stéphane, qui dit massage, dit...
Patrick Bruel.
Non, dérapage. Massage, dérapage. Ne nous fâchons pas avec des potentiels invités. Elle hésite, se dérobe, mais finit par lui dire...
Faites-moi tout ce que vous voudrez.
Avec la voix de Stéphane Bern qui vous donne une idée de quel point elle était bourrée. S'en suivra une idylle secrète de 3 mois qui se transformera ensuite en amitié qui durera toute une vie. Preuve, en 1999, Harrison Ford s'est crashé avec son hélicoptère. Carrie lui fait envoyer un pack de bière avec cette petite note « Quand tu bois, au moins tu ne pilotes pas ». En tout cas, avec les années, le caractère secret de leur aventure semble de moins en moins important à Carrie, qui en parle donc librement dans son autobiographie. Harrison, lui, semble un peu plus embarrassé, hein, interrogé sur le sujet par JQ. Il botte un peu en touche. « C'était étrange pour moi », dira-t-il du bout des lèvres. La journaliste lui demande alors s'il savait que Carrie Fisher allait publier cette histoire. Encore en marmonnant, il répond vaguement « un certain niveau, oui ». Puis il ajoute, pour mettre fin à cet instant de supplice, « Vous savez, avec le décès prématuré de Carrie, je ne crois pas que ce soit un sujet dont je souhaite discuter. » C'est tout le problème d'un secret partagé. Encore faut-il que les deux intéressés comprennent bien qu'il s'agit d'un secret. Par exemple, Stéphane, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir l'autre jour dans la presse anglaise cette interview que vous avez donnée au Sun et où vous parliez visiblement de notre duo radiophonique en des termes sur lesquels on n'était clairement pas d'accord.
« Secretly, we are gay. »
On réglera ça en antenne. Mais alors, qui était vraiment Carrie Fisher? Eh bien, je serais tenté de dire pas n'importe qui. C'est la fille de Debbie Reynolds, premier rôle féminin du film Chantons sous la pluie. Elle voit le jour à Beverly Hills le 21 octobre 1956. Très vite, elle suit les traces de sa maman et fait ses débuts sur scène à Broadway en 71 dans la comédie musicale Irene. Puis, âgée de 13 ans à peine, elle découvre malheureusement ce qui sera toute sa vie sa deuxième passion après le cinéma, la picole. La presse commentera avec élégance, je cite, à la 13 ans. « En soirée, la jeune femme boit déjà de bonnes quantités d'alcool. » La même année, elle découvre aussi simultanément la drogue et Warren Beatty, ce qui fait beaucoup pour une seule jeune femme. C'est son premier rôle au cinéma dans Shampoo. Warren tente sa chance d'ailleurs en vain. Et c'est en 77 que la carrière de Carrie décolle. Elle rejoint le casting de Star Wars suite à un incroyable micmac que je vous ai déjà raconté ici. Est-ce qu'on s'en souvient? Elle devait jouer dans...
Elle avait un autre casting.
Oui, elle s'appelle Carrie Fisher. Dans quel film elle devait jouer?
Carrie,
effectivement, dans Brian De Palma. Mais elle voulait pas montrer ses seins. Du coup, elle se fâche avec Brian De Palma et finit en bikini dans
Star Wars.
C'était la file de gauche. Effectivement, quand elle fait ce choix, elle est à mille lieues d'imaginer le phénomène que deviendra le film. Elle n'est pas la seule. Elle se dit, j'ai 19 ans, qui ne veut pas s'amuser à cet âge? Je me dis que je vais traîner avec une bande de robots pendant quelques mois, puis retourner à ma vie avant de décider ce que je veux faire plus tard. Hélas ou heureusement, l'impact de Star Wars sur sa carrière est tel qu'elle aura vraiment pas le choix par la suite. C'est les fans qui décideront pour elle. Elle sera toute sa vie la princesse Leia. Caricature de la comédienne qui se retrouve prisonnière d'un rôle trop marquant. Carrie commence à bitcher sur la saga. Les costumes d'abord, sa robe blanche mythique dans laquelle Lucas lui avait demandé de tourner sans sous-vêtements. Horrible. Et ce foutu bikini en métal, quand je m'allongeais, il restait droit. Ce qui fait que Boba Fett pouvait voir tout le chemin jusqu'à la Floride. Sa fameuse coiffure aussi, elle la trouve ridicule en fait. Mais à l'époque, elle est tellement jeune, elle n'ose pas le dire à George Lucas, de peur qu'il se fâche. Elle a des doutes aussi sur la qualité des dialogues. Quant à sa propre prestation, elle l'afflige tout autant. Surtout, je cite, « cet accent mi-américain, mi-anglais que j'ai tenté de prendre, va savoir pourquoi ». Clairement, Carrie entretient avec Star Wars une relation un peu schizophrénique. « J'ai passé la majeure partie de mon existence depuis mes 19 ans à être autant moi-même que la princesse Leia. J'en ai marre qu'on me confonde avec elle, marre de vivre dans son ombre. Je me débat avec le ressentiment qu'elle m'inspire. Je me l'approprie, je me retrouve, je lui tiens compagnie, je l'adore. » Oui, Carrie est paumée et ça se comprend. Après Star Wars, elle peine à donner un second souffle à sa carrière, comme bien des acteurs de la saga. On parle d'ailleurs dans le milieu de la malédiction Star Wars. Et puis, il y a cette autre malédiction qui pèse sur les épaules de Carrie, ou plutôt sur ses narines. Ses addictions en tout genre. Alcool, on l'a dit, mais aussi marijuana, antidépresseurs et cocaïne. Très vite, la BO de sa vie devient... Elle bascule du côté obscur de la force et là aussi, elle oublie de mentir aux journalistes. En interview, elle explique carrément, calmement, « Si nous sniffions de la cocaïne sur le plateau de l'Empire Contre-Attaque, bien sûr, fuck yes !» Seulement voilà, très vite, Carrie se rend compte aussi qu'elle en prend un peu plus que les autres. Une variété de marijuana est même baptisée « Princesse Leia » en son honneur. Consciente de ses problèmes, Carrie décide de consulter. « Je suis allée chez le médecin et je lui ai dit que je me sentais normale sous acide et que j'étais une source de lumière dans un monde de papillons de nuit. » C'est ce qui ressemble à un état maniaque, m'a-t-il répondu. En amour aussi, Carrie se cherche. Après Harrison Ford, elle craque pour Paul Simon. Mais au même moment, l'acteur Dan Aykroyd la demande en mariage sur le tournage des Blues Brothers. L'histoire est belle, nous sommes à la cantine, Carrie fait une fausse route avec un chou de Bruxelles, véridique. Dan Aykroyd lui fait régurgiter en pratiquant sur elle la célèbre manœuvre de Heimlich. Ce qui donne à peu près ça. Et comme il vient lui sauver la vie, il se dit que c'est le moment de la demander en mariage. Banco! Hélas, après un formidable voyage de noces dans le Nevada, passé, je cite, à regarder des films de Noël sous LSD, leur histoire se termine et Carrie retourne dans les bras de Paul Simon qu'elle épouse en 1983 avant de divorcer un an plus tard pour aller batifoler avec un impresario qui va lui faire un enfant avant de la quitter pour un homme. Faute de rôles intéressants dans les années 2000, Carrie devient script doctor. Elle retouche des scénarios de films. Vous serez peut-être étonné de savoir qu'elle se cache derrière des succès comme Hook, L'Arme Fatale 4 ou encore Sister Act. En 2015, le prix de la C ayant considérablement augmenté...
C'est un truc de pute.
Commentera le grand consommateur parisien David Seel. Carrie est obligée d'accepter de rempiler dans le rôle de la princesse Leia pour la suite de la saga Le Réveil de la Force. Retour mitigé entre la joie de retrouver ses vieux copains de l'époque et les critiques élégantes dont elle est victime sur les réseaux sociaux concernant le fait qu'elle a pris cher, résumerons-nous. « Mon corps n'a pas vieilli aussi bien que moi. Allez vous faire voir », rétorque-t-elle. Elle ne verra jamais le deuxième volet Star Wars Les Derniers Jedi, puisque le 27 décembre 2016, avant la sortie du film, Carrie Fisher meurt subitement d'une crise cardiaque à 60 ans. Ironie du sort, le lendemain, sa mère, Debbie Reynolds, décède à son tour d'un AVC. Selon les médecins, Carrie est morte des suites d'une apnée du sommeil et d'autres facteurs indéterminés. L'autopsie permettra d'identifier plus clairement ces autres facteurs indéterminés. Un sacré cocktail, hein, dans Top Chef, on parlerait d'une explosion de saveurs. Cocaïne, méthadone, éthanol, opiacés et MDMA. Pour ses obsèques, son frère Todd Fisher a une belle idée. Placé dans les cendres de Carrie dans une urne en forme de pilule de Prozac géante. Une célébrité présente aux funérailles commentera
« C'est de bon goût. Oui, c'est de très bon goût. »
Du meilleur goût. Effectivement, dommage que ses proches n'aient pas respecté toutes ses demandes. En effet, dans son autobiographie au titre prophétique « Wishful Drinking », Carrie avait dit « Dans ma notice nécrologique, je veux qu'il soit écrit que je me suis noyé dans le clair de lune, étranglé par mon propre soutien-gorge. » Désolé Carrie, ils t'ont pas suivi là-dessus. Alors, que retenir de cette histoire, de ce parcours de vie ?
Était idiote.
Non, elle était traversée par des tiraillements psychologiques complexes, Stéphane. C'est comme ça qu'on dit à Hollywood, où personne n'est idiot, surtout pas les stars qui nous ont fait rêver. En tout cas, la prochaine fois que vous vous roulez un pétard, Stéphane,
ça
vous arrive souvent. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous refile habituellement à Barbès. Exigez la qualité princesse Leia.
C'est la fête.
Ah, c'est la bonne princesse Leia.
Merci Mathieu, il y avait beaucoup d'erreurs hein, quand même, il y avait beaucoup de faux.
Il y avait concernant des choses volontairement fausses, concernant vous uniquement, mais malheureusement pour cette pauvre princesse Leia, c'est tristement vrai. Oui, Romy Schneider, ensuite Carrie Fisher, ces deux destins qui... Oui.
C'est une version reggae
Une version reggae que je vous
De la musique de Star Wars.
Toutes les musiques de John Williams en version reggae, c'est assez
gratuit. Une compil qui l'écoute pour le week-end.
Ouais, moi je l'écoute comme ça, un petit princesse Leia et tout de suite... Ah oui, c'est interdit. Je l'ai dit avec modération, non, c'est interdit.
De faire la promotion de ces
bien
choses.
Bien sûr, non, pas du tout. Pas du tout. Loin de moi cette idée-là. Voilà. De moi, cette idée-là, loin.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui dépoussière l'histoire chaque après-midi en compagnie de David Castello-Lopez qui remonte pour nous aux origines d'une invention. Aujourd'hui, on s'en serait passé.
Oui, c'est les barrières de chantier vertes et grises. Alors, quand j'ai proposé ce sujet au rédacteur en chef de l'émission, Benjamin Delsol, il m'a dit « Mais dis-moi, c'est pas que à Paris, ces barrières de chantier vertes et grises ? Parce que si c'est que à Paris, c'est pas top, parce que la majorité des Français qui habitent pas à Paris vont se sentir exclus par ton sujet. » Et la vérité, c'est que je lui ai répondu « Non, il y en a ailleurs, il y en a dans d'autres villes. » Mais vraiment, j'ai dit ça avec toute la bonne foi du monde parce que j'en étais persuadé. Et puis au moment de lister les villes où ces barrières existaient, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que certes, il y a des barrières de chantier qui se ressemblent dans toutes les villes de France, mais elles ne sont pas toutes vertes et grises. À Lille, par exemple, elles sont rouges. À Toulouse, elles sont noires et rouges. À Caen, elles sont bleues. Vous voyez ? Et donc, je suis obligé de m'excuser auprès de Benjamin, mais mon sujet va être un petit peu parisiano-centré. Donc, les barrières de chantier vertes et grises à Paris. Alors, ces barrières de chantier, c'est quoi ? Eh bien, en gros, ce sont des barrières qui servent à délimiter les endroits où, disons, temporairement merdiques. Vous voyez, c'est une façon de dire ici, la ville de Paris améliore votre avenir, mais pour ça, il faut qu'elle nuise temporairement à votre présent. Voilà. Moi, je les aime bien, ces barrières, parce qu'elles permettent de faire super bien la blague de la personne qui se cogne la tête pour de faux.
Je sais pas si
vous... Voilà, vous savez, vous faites semblant de vous cogner, et au moment où votre tête est près de la barrière, vous tapez avec votre pied très fort, ça fait un boucan du diable, et tout le monde vient vous voir pour vous dire ça va, est-ce que ça va ? Et là, vous vous relevez en souriant.
Je sens que vous le faites pour draguer. Et c'est pas joli, joli.
Je l'ai fait pour draguer quand j'avais 12 ou 13 ans. Ça marche moins maintenant. Alors pendant très longtemps, les chantiers à Paris étaient délimités par des barrières différentes en bois qui étaient peintes du côté extérieur en rouge et blanc. Mais en 1977, il y a un monsieur qui est élu maire de Paris. Hein, et ce monsieur, il s'appelle Jacques Chirac. Et l'un des objectifs de Jacques Chirac, quand il a été élu maire de Paris, ça a été de faire en sorte que ce soit moins le bordel quand il y avait des travaux à Paris. Et ça passait entre autres par le fait d'unifier et de signaler plus clairement les zones de travaux. Alors il a demandé à un cabinet de design qui s'appelait Topologie de réfléchir à des barrières sympas. Et l'équipe qui a imaginé les barrières était dirigée par un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Grunfeld. J'ai voulu enregistrer Jean-Pierre Grunfeld pour ce sujet, mais il m'a dit non, je ne veux pas participer parce que 5 minutes pour raconter l'histoire des barrières de chantier, ce n'est pas suffisant. Il m'a dit, même 52 minutes, c'est déjà pas assez. Vous voyez, il y a des gens qui sont encore plus tarés que moi. Vous voyez, ça existe.
C'est rassurant.
Ça existe. Mais peu importe.
C'est l'œuvre de sa vie en même temps.
Oui, non, je pense qu'il a fait un certain nombre d'autres choses. Mais enfin, il était très sérieux quand il me disait ça. Mais peu importe, l'important, c'est de savoir que les premières barrières de chantier vertes et grises, elles ont été installées en 1979 à Paris. Alors, comme je suis curieux, je suis allé visiter une usine de fabrication de barrières vertes et grises. C'est fascinant. Je vous emmènerai un jour dans cette... C'est la tôle. Elle arrive lisse et elle passe dans une très très longue machine, genre 20 mètres de long, qui tord progressivement le métal pour lui donner ce côté ondulé, vous savez, des barrières vertes et grises. Et ensuite, la machine, elle coupe des morceaux de tôle comme du saucisson, vous voyez, à la taille nécessaire pour les barrières.
Là, ça intéresse Olivier, là. Comme du saucisson, Olivier.
Saucisson.
Il s'est réveillé.
Et elle peint chaque...
La tôle arrive pré-peinte, si vous voulez. Elle est peinte dans la masse même du métal. Alors, question de Clémentine, tout à l'heure, de Clémentine Portier-Kaltenbach. Pourquoi ces barrières sont ondulées et pas lisses ? Eh bien, parce que ça les rend plus solide. Et je vais vous faire une petite démonstration avec cette feuille de papier. On peut commenter à mesure que je le dis, parce que bon, je parle surtout aux gens qui sont sur YouTube et sur europe1.fr. Si j'ai une feuille de papier lisse comme ça et que je la plie, vous voyez, c'est très facile à plier. Maintenant, si je fais ça, que je l'ondule et que j'essaie de plier, on peut, mais c'est plus dur. Oui. C'est plus dur. Et donc, onduler les barrières de chantier, c'est une façon de les rendre plus solides et plus résistantes. Autre question, pourquoi elles sont vertes et grises ?
Oui,
elle est sur toutes les bouches, cette question.
Bien sûr. Comme ça, on les voit même
voilà.
Quand
et
on
bien, est... Non, mais la réponse, elle est nulle. Nul, non. Complètement nul, c'est pour rien du tout en fait. Voilà, c'est que c'était juste les couleurs disponibles que les gens du cabinet de design trouvaient sympa. Et alors, je suis obligé de dire que depuis un an et demi maintenant, les barrières de chantier vertes et grises sont en train d'être remplacées par un nouveau modèle agréé par la ville de Paris et dans lequel le vert a disparu. Elles ne sont plus que grises, si vous remarquez à Paris. Et je suis obligé de dire qu'elles sont quand même plus élégantes comme ça parce que ce vert était pas top, plus sobre aussi. Mais vous savez, comme toujours, moi, quand un objet disparaît, ça me fait de la peine. Dernière petite chose à savoir, quand même, n'importe qui peut acheter une barrière de chantier.
Vous pouvez
commander une barrière de chantier sur Internet, ça coûte 75 euros. Il y a un monsieur qui vient la livrer chez vous. Ça ne sert à rien, hein, vraiment.
Mais on peut vous la livrer si vous voulez.
Place de parking, par exemple.
Voilà, ça c'est illégal. Mais vous pouvez le faire. Mais c'est un petit morceau d'histoire que vous pouvez garder chez vous. Et moi, je trouve ça sympa.
Merci beaucoup, David.
Et après avoir fantasmé sur les barrières de chantier avec David, nous allons fantasmer sur le secreto.
Je vous emmène en Espagne. Vous n'avez jamais entendu parler de ce morceau de viande, le secreto. Si Stéphane, peut-être.
Oui.
Alors, le secreto, qu'est-ce que c'est ? C'est une pièce de viande qui provient d'une découpe typiquement espagnole des fameux porcs ibériques. Je vais y revenir dans un instant. Alors, où se situe ce secreto ? Eh bien, il est situé au-dessus du cou de l'animal, dans une partie un petit peu haute. Et c'est en réalité un muscle qui travaille assez peu et qui est très infiltré de gras. Et l'intérêt de ce secreto, c'est que comme il y a beaucoup de gras, il y a beaucoup de goût et il y a surtout une texture particulièrement tendre.
Mais je comprends pas pourquoi on ne le mange pas en France, si c'est une partie qui est bonne.
Alors, on le mange en France, mais on le mange en France provenant d'Espagne, parce que les découpes françaises des porcs français sont pas les mêmes. Et puis surtout, la morphologie du porc n'est pas la même non plus.
Ils sont pas de secret, les porcs français.
Voilà.
C'est un porc ibérico.
Ils sont très transparents, voyez-vous. Ils ne gardent pas de secret. Et donc, en Espagne, où il y a cette fameuse variété de porc ibérique, qui est encore un des très rares porcs à l'état pratiquement sauvage qu'on peut trouver dans le monde, qui est originaire du bassin méditerranéen, qui a cette particularité esthétique d'être souvent très noir, d'avoir un poil très ras, eh bien, il se nourrit de plein de choses, des herbes, de ce qu'il trouve, et puis des glands aussi à la saison. Et c'est notamment cette nourriture spécifique qui lui donne ce goût particulier. L'une des caractéristiques de ce porc, c'est justement de s'engraisser, mais alors c'est pas un gras de surface comme les cochons chez nous, c'est un gras qui est intramusculaire, et donc c'est un gras qui est savoureux et qui est intéressant.
Et c'est parce qu'il mange, c'est son alimentation aussi. Hein,
oui, l'alimentation donne évidemment un goût particulier à la viande. Et donc comme ce porc est très à la mode pour le jambon, on ne l'utilise pas que pour faire le jambon, on utilise aussi toutes les parties, et de plus en plus en France, chez des bouchers qui importent du porc espagnol, vous pouvez trouver des viandes. Alors, il y a aussi la pluma qui est connue, qui est une autre pièce de ce porc. On peut trouver les côtes et on peut donc trouver parfois le secreto. Si vous avez l'occasion d'en avoir, prenez-le. C'est un morceau qui fait environ 350-400 grammes. Vous allez voir qu'il est très marbré, qui est très strié de gras, très persillé. Et la manière idéale de le préparer, c'est de le snacker. Alors, ma technique, c'est soit une plancha. Mais si vous n'en avez pas, une poêle vraiment bien chaude. Et comme la viande est déjà très grasse, il n'y a pas besoin en apprenant d'utiliser, d'en réutiliser. Vous allez le saler en revanche à l'avance, parce que saler une viande juste avant de la cuire, ça permet de faciliter la cautérisation et donc d'avoir une croûte qui sera plus croustillante. Donc vous attaquez sur une poêle ou une plancha très chaude.
Combien de temps chaque côté?
Alors, on saisit, on n'y touche pas. Souvent, on a tendance à retourner la viande pour voir.
Ah oui, moi, je ne peux pas. J'ai toujours envie de toucher.
Mais non, il faut laisser le temps de la caramélisation. C'est la fameuse réaction de Maillard. Donc, vous n'y touchez pas pendant 5 minutes. Vous faites ce que vous voulez, vous vous obligez à sortir la cuisine, mais vous n'y touchez pas pendant 5 minutes. Puis ensuite, vous la retournez, vous la snackez de l'autre côté, et vous prenez une petite noix de beurre sur le bout d'une fourchette, et comme si vous peigniez votre pluma, ça va la rendre un peu luisante, puis surtout, ça va augmenter encore, parce que vous allez faire une deuxième repasse, augmenter encore la caramélisation avec ce petit apport de matière grasse supplémentaire. Vous la laissez reposer 15 minutes, c'est très important pour que justement la chaleur se diffuse et que la viande se détende dans un four tiède. Vous la tranchez et à ce moment-là, vous la poivrez, vous rectifiez un petit peu de sel si vous voulez et vous avez un morceau de viande absolument incroyable. Ça ne ressemble pas du tout à du cochon, c'est très fondant, c'est unique.
Snack ton secret à la plancha.
Snack ton secret.
Ça donne très envie.
Ouais. Oh, oui, vous m'avez mis en appétit.
Pour l'apéro, c'est sympa.
Alors, à l'apéro, quelques tranches de jambon pâté à la grave.
En plus, c'est pas cher, c'est pratique. Ouais. Merci en tout cas, Olivier. On trouve toutes vos recettes, même celles qui sont secrètes, sur le site d'Europe1.fr. Stéphane, vous êtes là pour nous guider parmi les expressions de la langue française.
Oui, au travail, dans toute relation, quand des guerres de pouvoir se livrent, il faut parfois marquer son territoire, faire démonstration de sa puissance. C'est l'occasion de tenir la dragée haute à ses concurrents. Tenir la dragée haute. Voilà l'expression que je vous propose d'étudier cet après-midi.
Alors, quand on tient la dragée haute, c'est donc résister en montrant son pouvoir. Personnellement, j'entends surtout le mot dragée. On va parler confiserie.
On se calme parce qu'il faut penser au summer body. Ah. Tout commence au XVIIIe siècle. Un jeu pour occuper les enfants faisait fureur. On attachait un bonbon à un fil et il tentait de l'attraper pendant qu'un des deux parents tirait dessus. Tirait sur le fil, pas sur l'enfant. Et ce, pour éviter qu'il ne saisisse trop vite la friandise. Vous imaginez bien que dans les familles pauvres, il y avait beaucoup plus d'enfants que de friandises. Du coup, le jeu pouvait durer longtemps et effectivement, celui qui était au bout du filin tenait littéralement la dragée haute à sa descendance. Dans le même ordre d'idées, mais avec des chevaux, il était de coutume de suspendre des bottes de fourrage vert en hauteur et suffisamment pour que ces derniers soient obligés de faire un bel effort pour se repaître. La botte de sarrasin était d'ailleurs appelée la dragie, ce qui a donné dragée. Pour l'équidé comme pour les enfants, on leur tenait donc la dragée haute. Sachez qu'aujourd'hui, en allemand, on dit accrocher le panier à pain plus haut. C'est le même esprit, et chez les Hollandais, c'est tenir le saucisson devant le nez. C'est vrai que c'est cruel. Voilà comment le pouvoir peut être une histoire de gourmandise. En fait, c'est Marilyn Monroe qui avait raison, elle qui disait « Un baiser est une gourmandise qui ne fait pas grossir ».
C'est toujours un peu... Vous ne me prenez jamais parti. C'est-à-dire que là, il y a quand même deux explications historiques qui tiennent complètement la route, qui ne sont pas complémentaires.
Elles vont ensemble.
Elles s'excluent.
Non, parce que...
Soit c'est l'un, soit c'est l'autre.
C'est
soit
le mot de rager que je vous ai expliqué par le cheval. Oui. Et l'autre, c'est toujours le même principe. Vous faites faire des efforts en essayant de viser toujours plus haut. Et celui qui tient le pouvoir, c'est celui qui a le fil. Voilà.
Très bien, Stéphane.
Même chose pour les chevaux comme pour les enfants.
Je crois que nous avons été complets sur le sujet, les amis.
Ah oui, il n'y avait pas de quoi faire plus de 4 minutes 50, vous voyez.
Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Et à l'issue de cette spéciale consacrée aux femmes qui avaient un lourd secret, on ne peut pas se dérober à la question que se posent fatalement nos auditeurs. Stéphane, avons-nous, nous aussi, un lourd secret? Vous avez un secret qu'on découvrira comme ça après votre mort? Très très longtemps, évidemment.
Ah non, je ne crois pas.
Vous êtes un modèle de transparence.
Maintenant, vous avez transparence totale. Vous savez, sur les réseaux sociaux, la Wikipédia.
On sait tout de vous.
On raconte même des choses qui n'existent pas. Ben, on vous rajoute des secrets.
Notamment cette histoire de Robespierre, dont vous n'êtes pas le descendant. Oui. On se retrouve demain, les amis, avec de nouveaux personnages de l'histoire qui sont comme nous, mon Stéphanou.
Bien coiffés.
Non, inséparables. Comme nous, il y aura Astérix et Obélix, mais aussi Chang et Hank Bunker. Vous savez qui c'est, Chang et Hank Bunker, les gars? Les jumeaux siamois qui viennent de la province du Siam, les premiers siamois qui ont donné le nom au fait d'être attaché à son frère jumeau.
Et puis, les deux stars de la...
Vous les connaissez bien, ce sont des amis qui dînent souvent à la maison, Stéphane. Dolce et Gabbana, inséparables.
Ils sont beaucoup trop stricts pour moi.
Trop stricts?
Oui, vous avez toujours habillé de noir.
Vous verrez qu'ils savent aussi s'amuser.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.